VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du mercredi 2 septembre 2015. Morgane Guiriec et Anne Albertson en votre compagnie. Au sommaire ce matin.
Le procès Bosco Ntaganda débute aujourd'hui devant la Cour pénale internationale à La Haye.
Bosco Ntaganda est accusé de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon la procureure de la CPI, les enquêtes vont se poursuivre en République démocratique du Congo.
Ebola, 50 personnes ont été placées en quarantaine dans le nord-ouest de la Sierra Leone.
Nous reviendrons sur l'exécution au Tchad de 10 militants de Boko Haram condamnés pour le double attentat terroriste du 15 juin à N'Djamena.
La Banque africaine de développement va lancer un New Deal pour l'Afrique en matière de développement des ressources énergétiques.
Le pagne sous toutes ses coutures au salon d'Anfani Fashion Week au Burkina Faso.
On espère que la population verra ce que les créateurs proposent désormais avec le pagne tissé. C'est un grand marché qu'on cherche maintenant pour le Faso d'Anfani.
Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
L'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda sera à la barre ce mercredi à la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On l'accuse de nombreuses atrocités commises en RDC il y a plus d'une décennie. Bagassikoura.
Surnommé le Terminator, Bosco Ntaganda a été chef rebelle pendant des années dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais les 8 chefs d'accusation portés contre lui concernent des faits commis dans l'Ituri entre 2002 et 2003. Assassinat, tentative d'assassinat, attaque contre des civils et esclavage sexuel. Lors d'une conférence de presse avant le procès, Fatou Ben Souda, la procureure de la CPI, a dit que les actes posés par Ntaganda ont alarmé jusqu'au-delà de la RDC et de la région des Grands Lacs. Ntaganda a lui plaidé non coupable. Pour son avocat Stéphane Bourgon, le dossier est bien complexe.
Je me contenterai de dire à ce sujet que la preuve contextuelle qui sera entendue au cours du procès est très importante. Plus il y a de preuves au dossier, plus l'étendue du dossier sur une base temporelle ou matérielle est grande, et plus il y a de preuves, plus il sera difficile pour les juges d'évaluer la preuve qui sera présentée lors du procès.
Pour l'ONG Human Rights Watch, ce procès est une victoire pour les victimes et leurs familles et pour les défenseurs des droits de l'homme en RDC.
Et nous reviendrons sur ce procès en seconde partie d'émission.
Épidémie d'Ebola, 50 personnes ont été placées en quarantaine dans le nord-ouest de la Sierra Leone, où une femme décédée a été testée positive au virus. Les détails avec Henri Francisque.
Ces personnes ont été isolées à Sela Kafta, dans la région de Cambia, dans le nord-ouest du pays. D'après Ibrahim Cissé, du Centre national de contrôle d'Ebola, ces personnes sont considérées à haut risque. Elles auraient eu des contacts avec la vendeuse décédée le 28 août et qui a été testée positive à Ebola. Cette réapparition de la maladie a plongé le village et ses environs dans la consternation. La Sierra Leone espérait être sur la bonne voie après la sortie d'hôpital le 24 août à Makeni de la dernière malade d'Ebola traitée avec succès dans le pays. Plus de 2 semaines après, aucune nouvelle contamination n'a été signalée. Pour l'OMS, un pays est déclaré exempt d'Ebola 42 jours après le dernier cas connu, c'est-à-dire 2 fois la durée maximale d'incubation. Cette épidémie qui a touché l'Afrique de l'Ouest depuis fin 2013 a fait plus de 11 000 morts, essentiellement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria.
Conflit au Soudan du Sud, les États-Unis menacent les belligérants de sanctions onusiennes. Il faut dire que les deux camps, celui du président Salva Kiir et celui de la rébellion de l'ancien vice-président Riek Machar, sont accusés de violer le cessez-le-feu en vigueur, en théorie, depuis quelques jours. Washington, parrain de l'indépendance de ce pays, exhorte donc toutes les parties à mettre fin immédiatement aux actes provocateurs. Nous travaillerons avec nos partenaires au Conseil de sécurité pour prendre, si nécessaire, des sanctions, a averti le département d'État.
La Banque africaine de développement va lancer un New Deal pour l'Afrique en matière de développement des ressources énergétiques. Jean-Roger Billon nous en dit plus.
C'est le tout nouveau président de la BAD, le Nigérien Akinwumi Adesina, qui l'a annoncé lors de la cérémonie de son investiture à Abidjan. La Banque africaine de développement va lancer un New Deal pour l'énergie en Afrique. Il a insisté sur les énergies renouvelables, assurant que le continent dispose d'un potentiel illimité en ressources solaires, éoliennes, hydroélectriques et géothermique. M. Adesina a été élu le 28 mai pour un mandat de 5 ans à la tête de l'institution qui injecte chaque année 2 milliards de dollars dans des projets en Afrique. Ancien ministre nigérian de l'agriculture, Akinwumi Adesina, âgé de 55 ans, succède au Rwandais Donald Kaberuka, qui a passé 10 ans à la tête de la Banque africaine. Élu personnalité africaine de l'année en 2013 par le magazine Forbes pour ses réformes dans le secteur agricole, M. Adesina représente un pays considéré comme la nouvelle locomotive économique du continent.
Attaque à Benghazi dans l'est de la Libye. 5 membres des forces spéciales du gouvernement ont été tués hier dans l'explosion d'un engin piège. Benghazi est depuis plus d'un an théâtre de combats entre forces gouvernementales et groupes armés, dont les djihadistes du groupe État islamique.
Manifestation à Tunis. Des dizaines de personnes ont protesté contre le projet de loi prévoyant l'amnistie de personnes poursuivies pour corruption en échange d'un remboursement et d'une pénalité financière.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lutte contre le groupe État islamique, les États-Unis devraient songer à enrôler des combattants du front al-Nusra, branche d'Al-Qaïda en Syrie, pour rejoindre les rangs de la coalition luttant contre l'organisation. Telles sont les recommandations du général David Petraeus, ancien directeur de la CIA. Il pourrait être possible de récupérer les combattants qui voudraient renoncer au front al-Nusra et s'aligner avec l'opposition modérée contre al-Nusra, le groupe État islamique et le régime du président syrien Bachar al-Assad, estime David Petraeus. M. Petraeus avait notamment convaincu des chefs sunnites irakiens de travailler avec l'armée américaine et de ne plus combattre avec Al-Qaïda.
Au Yémen, l'organisation Human Rights Watch dénonce de graves abus contre des civils et des combattants détenus à Aden, la grande ville du sud du Yémen. Ces crimes auraient été commis tant par les forces pro-gouvernementales que les rebelles chiites houthis. L'organisation de défense des droits de l'homme fait état d'exécutions sommaires d'au moins 7 houthis et pour leur part, ces rebelles auraient illégalement détenu et maltraité des civils.
Migration vers l'Europe, la Hongrie a de nouveau empêché mardi les migrants de prendre le train pour rejoindre l'Autriche ou l'Allemagne. Les autorités ont fait évacuer une gare de Budapest alors que quelques 500 migrants tentaient de monter à bord du dernier train qui devait partir pour Vienne. L'évacuation, encadrée par plusieurs centaines de policiers, a provoqué une manifestation spontanée de 200 personnes devant la gare qui criaient « Allemagne, Allemagne, nous voulons partir ».
Par ailleurs, 6 trains Eurostar reliant Paris et Londres ont été bloqués la nuit passée en raison de l'intrusion de personnes, probablement des migrants, sur les voies du tunnel sous la Manche. C'est ce que rapporte l'AFP.
En France, un incendie d'origine encore indéterminée a fait 8 morts, dont des enfants, dans un immeuble d'habitation du 18e arrondissement dans le nord de Paris.
Les États-Unis entendent se doter de nouveaux brise-glaces, des navires permettant de traverser les eaux glacées. C'est ce qu'a fait savoir le président Barack Obama, qui entend ainsi asseoir les ambitions américaines dans l'Arctique. Et cette région riche en gaz et en pétrole fait l'objet de nombreuses convoitises. La Russie a déjà revendiqué la souveraineté de larges pans de l'Arctique, de territoires en Arctique, et possède 40 brise-glaces. En face, les États-Unis n'en possèdent que 3. Ces gros brise-glaces vont nous permettre de protéger nos intérêts et de gérer nos ressources naturelles, estime la Maison-Blanche. Il faut dire que le Canada, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède ont aussi des visées sur l'Arctique.
Un vaisseau spatial russe Soyouz a décollé mercredi matin du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à destination de la Station spatiale internationale. À son bord, le premier astronaute danois et 2 cosmonautes russes et kazakhs.
Les 3 astronautes doivent arriver sur l'ISS vendredi à 6h42 GMT après avoir passé plus de 48 heures à bord du vaisseau Soyouz.
Enfin, scène de liesse au Guatemala. Une foule enthousiaste a célébré hier la levée historique de l'immunité du président Otto Pérez. Le Parlement ayant levé son bouclier judiciaire, M. Pérez sera poursuivi pour corruption.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Des drones vont être utilisés contre le vol de pétrole au Nigeria. La NNPC, la compagnie pétrolière nationale nigériane, a annoncé qu'elle allait utiliser des drones pour surveiller les pétroliers dans ses eaux territoriales pour mettre un terme au vol de pétrole brut et de produits pétroliers. La NNPC étudie également des mesures pour inciter les communautés locales à protéger les oléoducs et gazoducs qui sont régulièrement saccagés par des voleurs. La Banque africaine de développement va lancer un New Deal pour l'Afrique en matière de développement des ressources énergétiques. C'est ce qu'a affirmé hier son nouveau président, le Nigérian Akinwumi Adesina. Libérer le potentiel énergétique énorme de l'Afrique pour l'Afrique sera un axe majeur de la banque, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de son investiture à Abidjan. Afrique du Sud, l'exploitation de gaz naturel pourrait constituer une solution efficace pour aider l'Afrique du Sud à répondre à la crise énergétique qui affecte son économie depuis plusieurs années, selon le dernier rapport de McKinsey, qui prévoit l'aggravation des coupures de courant ces prochaines années en Afrique du Sud en raison de la hausse de la demande et de la vétusté des centrales à charbon. Ces nouvelles exploitations devraient permettre, au moins à court terme, de soulager le réseau électrique qui a atteint l'extrême limite de ses capacités.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Claire. Et on enchaîne sur les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgan.
En football, en République démocratique du Congo, Sanga Balende, un nouvel entraîneur.
Il s'agit du technicien français Lionel Charbonnier qui s'est engagé selon Foot Africa 365 pour deux saisons en faveur de cette formation de l'élite congolaise, une formation basée à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Lionel Charbonnier est un ancien sélectionneur de Tahiti et ancien DTN de l'Indonésie. Il a été aussi gardien international français.
En football toujours, le Camerounais Alex Song prêté à West Ham.
Oui, le milieu camerounais de 27 ans a, comme la saison passée, été prêté une année à West Ham par Barcelone. L'an passé, le tout jeune retraité international s'est pleinement intégré au dispositif des Londoniens avec lesquels il a disputé 31 matchs. West Ham a également annoncé lors de la dernière journée du mercato estival les arrivées de plusieurs recrues, dont l'ailier nigérien Victor Moses, prêté par Chelsea.
Sur le marché des transferts, Anthony Martial fait du bruit.
Oui, l'attaquant de 19 ans de Monaco, Anthony Martial, s'est engagé avec Manchester United pour 4 saisons avec une 5e en option. Selon les médias de deux pays, il pourrait avoisiner les 80 millions d'euros.
En athlétisme, Los Angeles officiellement candidate des Jeux Olympiques.
Oui, Morgan, le comité olympique américain a annoncé hier que Los Angeles était officiellement candidate à l'organisation des Jeux olympiques de 2024. Cette annonce fait suite à la décision plutôt du conseil municipal de la ville de faire acte de candidature. Los Angeles a déjà organisé les JO d'été en 1932 et 1984.
Merci Bagassi.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur la crise de l'immigration en Europe. Ces dernières semaines ont été marquées par de nouvelles tragédies humaines. De nombreux migrants venant du continent africain. Que peut et veut faire l'Europe pour régler le problème? Que pouvez-vous suggérer? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul. And baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec au micro, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie d'émission. L'ancien chef rebelle congolais Bosco Ntaganda se trouve ce mercredi devant les juges de la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour 18 chefs d'accusation. À quelques heures de l'ouverture de ce procès, le bureau du procureur, la défense et les représentants des victimes de Bosco Ntaganda ont tenu une conférence vidéo mardi en direct de La Haye. Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a suivi le débat en direct du bureau de la CPI RDC. Écoutez son reportage.
Bosco Ntaganda est accusé de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon la procureure de la CPI, les enquêtes vont se poursuivre en République démocratique du Congo. Madame Fatou Bensouda, propos traduit par une interprète.
Nous allons continuer à enquêter en République démocratique du Congo. Et il y aura d'autres affaires. Cette cour a le pouvoir et le devoir en droit de mener des enquêtes et des poursuites lorsque personne d'autres ne rend justice aux victimes. Nous n'abandonnerons pas les victimes de crimes atroces, ni en République démocratique du Congo, ni en Afrique, et ni dans les 123 pays dans le monde qui sont membres de la CPI.
La défense de Bosco Ntaganda a dit n'avoir pas disposé assez de temps pour cette affaire. Maître Stéphane Bourgon, propos traduit par une interprète.
J'essaye d'aborder ce procès d'une manière responsable, puisque je suis le conseil principal de la défense de Bosco Ntaganda. On m'a donné le dossier l'année dernière, en août 2014. Depuis lors, plusieurs témoins ont été ajoutés et l'accusation s'appuie fortement sur ces témoins pour sa cause contre Bosco Ntaganda. Le volume des documents a triplé depuis janvier.
Quelle langue parle Bosco Ntaganda et quelle est sa réelle nationalité? Son avocat, Maître Stéphane Bourgon, répond.
La langue dans laquelle je parle avec M. Ntaganda, je parle en français. M. Ntaganda se considère comme un Congolais. M. Ntaganda vous dira peut-être demain quels sont et quels étaient ses objectifs en tant que Congolais. Bien qu'il parle Kinyarwanda, et demain il parlera en Kinyarwanda.
Pour Human Rights Watch, la comparution de Bosco Ntaganda est une victoire pour les victimes, pour leurs familles, ainsi que pour les militants des droits de l'homme à travers la République démocratique du Congo. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
L'extension samedi au Tchad de 10, l'exécution pardon, de 10 militants de Boko Haram condamnés à mort pour le double attentat terroriste du 15 juin dernier à N'Djamena continue de faire des vagues. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a déploré la reprise des exécutions dans le pays, d'autant plus que celles du 29 août sont intervenues au lendemain des sentences rendues après un procès express. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Daniel Dezumbé-Passalé, président de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières.
Nous estimons que le procès a été très expéditif. Et quand c'est expéditif de cette façon-là, ça ne permet pas aux justiciables de bénéficier de ce qu'on appelle la justice équitable. La justice équitable a des conditions. Il faut que les deux parties aient droit à des armes égales, que les deux parties aient des conseils, et que les audiences soient publiques, etc. Nous pensons que ça n'a véritablement pas été le cas et ces gens ont été exécutés. Et en plus, nous estimons des craintes pour ces gens qui pourraient éventuellement venger les leurs qui avaient été exécutés. Et nous regrettons aussi la publicité qui avait effectivement été faite dans les médias nationaux et internationaux de l'exécution de ces gens.
D'aucuns disent que c'est des gens qui tuaient à tout bout de champ sans sourciller. Pourquoi faut-il se préoccuper de leurs droits?
Quand vous avez des problèmes avec la justice, quelle a été la nature de l'infraction que vous avez commise? Vous bénéficiez d'un procès équitable. C'est vrai, ces gens, ils sont présumés être des militants de Boko Haram. Mais cela n'empêche pas qu'ils aient des procès équitables à l'issue duquel ils doivent être condamnés. Mais là, nous avons comme impression que l'opinion qui est exaspérée par les explosions, par les attentats un peu partout, les a même condamnés à l'avance, ce qui a permis au gouvernement de tout faire à la va-vite et puis exécuter ces gens.
Le Tchad s'apprêtait à abroger la peine capitale, mais à la faveur de ces attaques, est revenu sur cette démarche.
Oui, c'est malheureux. C'est en cela que nous disons que c'est un peu un recul, parce qu'on était véritablement sur la voie de l'annulation de la peine de mort. Mais maintenant, avec l'avènement de Boko Haram, on ramène la peine de mort. Pour autant, ça ne résout pas le problème, parce que ces gens, ils veulent déjà mourir. Et vouloir les tuer ne résout pas pour autant le problème. Et regardez par exemple au cours de l'audience, les militants de Boko Haram qui étaient en train d'être jugés, ils disent à qui voulait l'entendre que, écoutez, si nous sommes acquittés, nous avons un engagement avec Boko Haram, nous allons repartir à nos bases, nous allons repartir à nos tâches. Regardez, des gens comme ça, les tuer, ça ne résout pas le problème. Les gens n'ont rien à faire avec leur vie. Et vous les tuez, ça veut dire que vous les aidez en fait.
Daniel Dejumbe Passalé, président de l'ONG tchadienne Droits de l'Homme sans frontières, qui nous parlait de N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
En République centrafricaine, la Cour constitutionnelle a invalidé la semaine dernière la participation de certains acteurs de la transition aux prochaines élections dans le pays. Cette décision suscite en ce moment de nombreuses réactions dans le pays. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Pour Crispe Mbulungumba, ancien ministre d'État de la Transition et président du parti, le Parti africain pour une transformation radicale et l'intégration des États, la décision de la Cour constitutionnelle ne tient pas la route. Pour lui, la transition n'a pas commencé qu'avec la prestation du serment de Michel Djotodia et que l'unicité de la transition brandie par la Cour constitutionnelle de transition est une erreur.
Je pense que pour ça, on n'a même pas besoin d'être juriste. C'est juste l'épreuve des faits qui peut contredire la Cour constitutionnelle de transition. La première transition a commencé avec le président Bozizé, puisque cette même Cour, par extraordinaire, fait référence à l'accord de Libreville. La source de la première transition, c'était bien la constitution de 2004 et l'accord politique de Libreville. C'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre Nicolas Tshangai a formé un gouvernement dit d'union nationale de transition.
Reconnaissant que la décision de la Cour constitutionnelle est non susceptible de recours, Crispe Mbulungumba précise que la lutte ne fait que commencer et penser un seul instant que nous allons baisser les bras et souffrir en holocauste serait une erreur. Pour Gina Michel Sonzé, députée de Dekoua au Parlement de la Transition, cette décision est une nouvelle crise en vue dans le pays. Elle appelle de ce fait à une concertation élargie afin de garantir l'avenir de la République centrafricaine.
Il est nécessaire pour nous de trouver des solutions de sortie de crise. Il est temps pour nous de nous concerter tous, quelles que soient nos visions, nos opinions. Il est temps pour nous de nous concerter tous sur tout ce qui est question d'intérêt national.
Dans une interview accordée le mardi 1er septembre à une radio locale, David Brown, le chargé d'affaires à l'ambassade américaine à Bangui, a estimé que la décision de la Cour constitutionnelle de transition est une victoire.
Oui, je crois que c'est une victoire pour un état de droit en République centrafricaine parce que la Cour a bien tranché cette question par rapport à ce qui était écrit dans la Constitution. Je crois que cette décision et le respect de cette décision ne peut que renforcer l'institution. C'est une bonne chose, donc nous le félicitons.
La semaine dernière, la Cour constitutionnelle de transition a invalidé la participation de certains acteurs qui ont dirigé la transition dans le pays aux prochaines échéances. Décision fondée sur la charte constitutionnelle de la transition qui, en son article 106, interdit aux principaux acteurs de la transition de se présenter aux prochaines élections. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Sur le Burkina Faso se tient le salon d'Anfani Fashion Week, une semaine consacrée à la promotion du tissu en cotonnade dans ses diverses utilisations vestimentaires et décoratives. Correspondance de Zoumana Wonogo.
D'Anfani, du djoula Dan qui veut dire tisser et Fani étoffe, est à l'honneur sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou dans le cadre du salon d'Anfani Fashion Week. Marguerite Douaniou, la promotrice de ce salon textile à ciel ouvert, s'explique.
L'avenue Kwame Nkrumah, c'est une avenue qui est très fréquentée. On espère que la population verra ce que les créateurs proposent désormais avec le pain tissé. C'est un grand marché qu'on cherche maintenant pour le Faso d'Amfani. Les artisans ont besoin de commandes. Ils n'ont plus besoin de tisser comme ça parce qu'il faut tisser, sans réellement savoir qu'est-ce qu'il faut faire après de leurs produits. Donc l'idée, c'est que cette semaine-là, il y ait des acheteurs professionnels, il y ait des chefs d'entreprise, il y ait vraiment des gens qui peuvent permettre à ces artisans-là de vivre, par exemple, toute une année sans avoir à s'inquiéter parce qu'ils auront une grosse commande.
Empruntant cette avenue marchande, nous avons fait une halte au stand du Burkina Faso. Comment va le marché, avons-nous demandé à la vendeuse.
Tamira Ouedraogo de l'association La Fille à Vie. Et ce sont nos mamans qui tissent les pains du coton du Burkina Faso. Le pain est bien solide, sa durée de vie, on peut donner 5 ans si on l'utilise permanemment.
Les prix très élevés du Faso d'Amfani constituent un frein à sa promotion au Faso, suivant la démonstration avec Madame Esther Barry.
Ça, c'est une réalité. Parce que le Faso d'Amfani coûte cher. Quand tu veux l'avoir de bonne qualité, il faut aller jusqu'à 25 000 en montant. Pourtant, le pain qui nous vient de l'extérieur, on peut l'avoir facilement à 3 000.
À propos des prix du Faso d'Amfani, la promotrice du D'Amfani Fashion Week se pose alors en avocat défenseur. On écoute Marguerite Douaniou.
Quand on voit deux femmes ensemble, une qui est habillée avec un pain imprimé et l'autre avec D'Amfani, c'est tout de suite celle qui a porté D'Amfani qu'on regarde. Ça veut dire que c'est un produit de luxe. C'est vrai, il est cher parce que la matière première n'est pas forcément à la portée. Et on se dit que s'il y a une volonté politique derrière ça, si par exemple le fil est subventionné, on pourra proposer des pains de très grande qualité à la disposition de tous les Burkinabés. Il est cher, c'est vrai, mais il faut voir aussi le travail qui est fait derrière. Et puis c'est fait main. Tout ce qui est fait main chère, c'est pas de l'industriel.
L'un des objectifs de ce salon de la cotonnade est la promotion vestimentaire typiquement burkinabé. Sibiri Nestor Samlé est burkinabé vivant aux États-Unis.
D'abord, quand on voit ça, on crie. Vous ne pouvez pas porter ça et passer inaperçu. Et c'est à notre grand honneur aussi qu'on répond. Je viens du Burkina Faso, le pays des hommes intègres.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, la nouvelle des deux femmes qui ont réussi au parcours du combattant éreintant des Rangers de l'armée américaine a été source de bien des inspirations. Au niveau local, la police du comté de Fairfax, près de Washington DC, a lancé une campagne de recrutement pour voir encore plus de femmes dans ses rangs. Michel Joseph.
La policière Jessica Kane de la police de Fairfax explique à des lycéennes comment son escadron travaille, tout en démontrant comment on procède à des interpellations pour violation du code de la route. Tout cela fait partie des classes que son commissariat a offertes dans le cadre d'un programme d'une semaine appelé « Les futures femmes leaders du maintien de l'ordre ». Je veux qu'elles saisissent clairement ce que c'est d'être un policier, le genre de travail que nous faisons. 34 lycéennes ont participé au programme qui vise à recruter des jeunes femmes représentant diverses couches de la société. Selon le commissaire adjoint chargé des enquêtes, Ted Arne, les policières ne représentent actuellement que 13% des 1300 agents que compte le comté de Fairfax. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, on peut faire mieux. C'est pourquoi je veux que les lycéennes considèrent le maintien de l'ordre comme une bonne opportunité, particulièrement ici même dans leur propre quartier. Les jeunes filles apprennent directement les tenants et aboutissants de la profession, les patrouilles, les tactiques de défense et l'entraînement physique, le maintien des armes et les enquêtes sur les lieux des crimes. La policière Jane Burns. Ce programme montre à celles qui participent qu'il n'y a aucune limite à ce qu'elles peuvent faire dans le domaine du maintien de l'ordre. Il est important que ces jeunes dames sachent que les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes et qu'il n'y a rien qui puisse entraver leur progrès. À la fin du programme, la plupart des lycéennes ont avoué que leur manière de voir la police avait bien évolué. Par exemple, Joy Jongwe. Au début, je me méfiais des flics, mais voyant que je peux moi-même être policière m'a fait apprécier à sa juste valeur ce qu'ils font et comment ils risquent leur vie. De son côté, la lycéenne Julia Devine a déclaré. Cette semaine m'a montré que je peux faire réellement tout ce que je veux. Bien que je sois une fille, je suis forte. J'ai appris qu'il faut travailler dur pour arriver au résultat. Mais oui, je suis convaincue que je peux être policière. Les lycéennes reconnaissent les dangers inhérents au maintien de l'ordre, mais ça en vaut la peine et c'est tout ce qui compte, soutiennent-elles.
Anne Albertson a dirigé la mise en onde, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.